podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholec, je suis journaliste et je vous propose, le temps d'un trajet en métro ou en bus, de tout comprendre sur un sujet de recherche. L'épisode du jour nous amène en Amazonie, terrain de recherche de notre invité, au cœur d'un système politique autochtone où les émotions ont leur mot à dire pour faire éclore la démocratie. Bonjour Paul Kodjia.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en anthropologie politique, post-doctorant au laboratoire d'excellence, le LABEX, SMS pour structures et mondes sociaux de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Vous êtes attaché au laboratoire LIST-CAS, le laboratoire interdisciplinaire solidarité. Société et territoire dans l'équipe donc d'anthropologie sociale. Vous avez soutenu, je le précise, votre thèse à l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, avant donc de poursuivre votre recherche ici à Toulouse, à l'UT2J. Ce système politique donc, que je viens d'évoquer, Paul Kodjia, c'est celui qu'ont créé les Wampis en Amazonie. Alors, qui sont-ils ces Wampis? Où est-ce que nous sommes et de quoi on parle?
Les Wampis, c'est un peuple autochtone du nord de l'Amazonie péruvienne qui habite un territoire de un peu plus de 1 million d'hectares et qui, en fait, en 2015, ont, pour protéger leur territoire de l'entrée des entreprises extractives, donc j'entends par là entreprises pétrolières, orpailleurs illégaux, etc., ils ont essayé de s'organiser ensemble pour former un gouvernement territorial autonome de la nation Wampis, afin de protéger justement ce territoire et pour faire face donc aux politiques néolibérales, économiques néolibérales de l'État péruvien.
Et dans le paysage politique justement de l'État péruvien, ce gouvernement autonome, il est toléré?
En fait, le problème c'est que le gouvernement territorial autonome de la nation Wampis recherche en fait à faire reconnaître la nation Wampis, une nation autochtone qui serait donc à l'intérieur de l'État-nation péruvien. Et ça, évidemment, l'État-nation péruvien le refuse. Il refuse d'être un État plurinational, contrairement à ses voisins qui sont la Bolivie et le Pérou.
Et l'Équateur.
L'Équateur, pardon. Excusez-moi.
On est au Pérou.
Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, le Pérou refuse finalement de mettre fin à ce modèle de l'État-nation. Et donc, c'est pour ça qu'il ne reconnaît pas ce gouvernement. Et évidemment, il veut continuer à exercer une pleine souveraineté sur son territoire pour pouvoir extraire les ressources du coin.
Donc, il le tolère. Il ne le reconnaît pas, mais il le tolère.
Disons qu'il ne se prononce pas de manière explicite. Il se tait, on va dire, plutôt, pour éviter, au fond, de poser la question publiquement.
Alors, ce gouvernement autonome de la nation Wampis, vous y êtes intéressé. Pourquoi? Parce qu'il a, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce gouvernement?
En fait, il se trouve que j'ai commencé mon terrain donc chez les Wampis en 2013. Certains leaders politiques étaient en train d'essayer d'unir l'ensemble des villages pour pouvoir justement fonder ce gouvernement territorial autonome et définir une politique commune de gestion du territoire. Et en fait, j'ai été tout à fait étonné par le processus d'unification de ces différents villages, parce que il est apparu qu'en fait, les leaders cherchaient à produire, si vous voulez, en permanence le consentement de tous à créer cette union. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous voulez, dans les règles de bienséance locale les plus élémentaires. Entre adultes, il est interdit de donner des ordres. Et donc, en fait, ils ont réussi à créer un gouvernement et qui a cette particularité, on ne peut pas commander et la relation de commandement-obéissance est absente de ce gouvernement. Et donc, la question qui a guidé ma recherche, c'était essayer de savoir eh bien, comment fait-on pour gouverner, justement, sans commander. Et c'était ça un peu ce qui m'a intéressé. Ces arts de gouverner, au fond, consistent à faire consentir en permanence les autres. Et donc, au fond, ça redessine complètement les coordonnées, si vous voulez, politiques auxquelles nous sommes, nous, accoutumés dans les États-nations modernes et dans nos démocraties modernes. Parce que, au fond, ce qu'il faut étudier dans ce cas-là, ce sont les interactions vraiment quotidiennes des gouvernants avec leurs gouvernés. Parce que la relation de commandement-obéissance, elle est assez pratique, au fond, parce qu'elle évite justement de devoir consulter, de devoir se préoccuper des pensées, de l'opinion et des sentiments des autres. Une fois qu'on est élu, au fond, on commande. Et donc, les gens suivent, doivent suivre, parce que c'est comme ça, c'est la constitution, etc. Or, chez One Piece, il n'y a pas du tout, évidemment, cette relation, comme je viens de le dire. Et donc, il faut, lors d'assemblées qui ont lieu assez régulièrement, il faut toujours prendre le temps, les gouvernants doivent prendre le temps de redéfinir ensemble les politiques communes pour susciter le consentement des autres, au fond.
Je voulais qu'on parle du président lui-même, parce que dans ce gouvernement, vous me le disiez en préparant ce podcast, il y a des éléments qui sont importants. Il est très imprégné notamment de rituels. Et l'un de ces rituels concerne directement le président élu du gouvernement One Piece. Est-ce que vous pouvez nous décrire et nous raconter ce que c'est que ce rituel, à quoi il sert?
Alors ça, c'est un trait justement qui est passionnant au sein de ce gouvernement, c'est-à-dire que, en fait, jusque dans les statuts constitutifs, j'ai commencé par là, dans les statuts constitutifs de ce gouvernement, la constitution si vous voulez, il est précisé que pour être élu président, on appelle Pamuk en One Piece, il faut avoir obtenu la vision d'un esprit Harutam, qui est un esprit que l'on parvient à rencontrer en rêve ou bien après ingestion de plantes psychotropes comme la fameuse liane Banisteriopsis caapi, qui est l'ayahuasca. Et donc, lorsqu'on parvient à rencontrer cet esprit, l'esprit nous donne la force, le pouvoir, nous délivre un message de bon augure annonçant que nous parviendrons à nous réaliser finalement personnellement. Le président, au fond, le candidat en tout cas à la présidence One Piece, doit réaliser ce rituel pour parvenir à avoir la vision d'un avenir commun à l'ensemble des One Piece qui soit heureux au fond et qui soit en accord avec ce qu'on appelle localement les valeurs du bien-vivre, le Tarimat Puhut. Au fond, cette vision va faire office de programme politique. Le président pourra se vanter en assemblée qu'il a eu une vision d'un esprit Harutam et que donc, pour cette raison précisément, il faut le suivre, parce qu'il est sûr que ça va se réaliser. Il aura la confiance en lui et la force nécessaire pour mettre en place ce programme politique. À partir de ça, en fait, j'ai réalisé que si ce rituel était présenté comme nécessaire pour devenir président, pour devenir un gouvernant, en fait, ce n'était pas seulement juste à cause de la vision que transmet l'Harutam, mais c'est surtout à cause de la relation affective qui est tissée entre le quêteur d'une vision, entre la personne qui recherche une vision et l'esprit. Cette relation affective...
On rentre dans le champ des émotions, là. Ouais.
C'est un savant mélange, un mélange très subtil de subordination et de confrontation. Il faut susciter la compassion de l'esprit en jeûnant, en souffrant, en s'éloignant seul en forêt. Et cet esprit va se présenter alors, il va s'approcher par compassion. Mais la première chose qu'il fait, l'esprit, c'est se présenter sous une forme menaçante, effrayante. Un jaguar gigantesque, un énorme anaconda, ou voire une tête décapitée roulant sur le sol. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'approcher de cette première apparition et essayer de la frapper. Se montrer soi-même menaçant. En faisant ça, l'esprit teste notre détermination à acquérir son pouvoir. Notre détermination à endurer la peur et la souffrance pour parvenir à nos fins. Et à partir de ce moment-là, si on réussit à surmonter cette peur-là, cette première apparition se transforme en une voix ou en humain, en un ancêtre guerrier humain, etc., qui va transmettre effectivement son pouvoir ou son message de bon augure. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que le leader One Piece, le gouvernant, doit établir avec les gouvernés une relation analogue à celle que l'Harutam doit établir avec un quêteur. Le visionnaire doit transmettre sa vision aux autres, il doit transmettre sa force, il doit transmettre ses connaissances aux gouvernés pour que, in fine, les gouvernés soient en mesure peut-être un jour d'être aussi des gouvernants.
Donc le bon gouvernant doit former de futurs gouvernants.
Exactement. Le bon leader est quelqu'un qui produit d'autres leaders.
C'est paradoxal. En tout cas, c'est très différent de ce que nous, on connaît.
Absolument.
Ces assemblées, Paul Kodja, vous y avez assisté et il y a un élément qui est important dans ces assemblées. On est toujours dans le champ de votre recherche, c'est-à-dire le rôle des émotions. C'est l'expression justement de ce que l'on ressent. Les gens sont invités à exprimer ce qu'ils ressentent. Pourquoi c'est si important pour les One Piece?
Comme je l'évoquais, étant donné qu'il est, prohibé de commander, étant donné qu'on est obligé de produire en permanence le consentement des autres et produire un consensus. Le mot est intéressant en français, consensus, parce que étymologiquement, ça veut dire c'est con consensus, c'est consentir, donc c'est sentir ensemble. Il faut qu'on parvienne à produire un sentiment similaire pour parvenir à un accord. Et donc, dans cette société, on permet aux gens, dans les assemblées, d'exprimer leurs sentiments parce que, précisément, il faut, quand par exemple une personne a senti par exemple qu'un gouvernant, qu'un élu l'a dominé ou qu'il a laissé transparaître un bourgeon de commandement, on va dire, eh bien, une personne peut s'exprimer en assemblée et dire là, par exemple, je me suis senti dominé, c'est inacceptable, etc. Et donc, l'expression des ressentis est totalement légitime en assemblée pour contester, par exemple, des décisions ou une manière de prendre des décisions. Si je me suis intéressé aussi au One Piece, c'est parce que précisément, en fait, il développe, c'est une société en fait, où la dichotomie entre raison et émotion n'existe pas. Et donc, il développe des pratiques démocratiques qui, justement, ne se soucient pas de cette fameuse opposition, en fait, entre des capacités argumentatives raisonnables et des talents oratoires persuasifs, etc. Les deux sont intimement mélangés, en fait. Il faut à la fois avancer des arguments dans l'argumentation, mais il faut à la fois aussi savoir, justement, persuader et faire consentir, encore une fois. Et donc, les émotions sont absolument fondamentales. Les aspects, comment dire, la qualité affective des relations entre gouvernants et gouvernés est aussi importante que le contenu programmatique de la politique, que l'argumentation que nous on appelle raisonnable, on va dire.
Le temps file, Paul Kodja. Malheureusement, on aurait plein de choses à évoquer, mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Est-ce que cette pratique de la démocratie, elle fonctionne selon vous? Alors là, évidemment, je pose la question à l'anthropologue que vous êtes. Est-ce que ça fonctionne?
En tant qu'anthropologue, et ça c'est une question, je crois, de méthodologie de la recherche en anthropologie, c'est que cette question-là ne me semble pas, au fond, très pertinente de savoir si ça fonctionne ou pas. Parce que si, quand je pose cette question, ça veut dire que j'ai en tête un modèle idéal, que je voudrais qu'il soit réalisé, que j'ai en tête une finalité. Alors que je crois que l'anthropologue doit surtout se concentrer sur la description ethnographique de ce qui se passe, des faits, en fait, et juste essayer de comprendre ce qui est en train d'être créé, d'émerger. Voilà, donc je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre
à
cette question.
Il
n'y a pas de réponse à cette question.
En tout cas, le gouvernement One Piece existe toujours.
En tout cas, le gouvernement One Piece existe toujours et je crois que pour un petit moment encore, ils sont très motivés.
Paul Kodja, est-ce que vous auriez, c'est le rituel pour le coup dans On Air, un conseil de lecture, d'expo, de film ou peut-être de conférence à donner à celles et ceux qui nous écoutent sur ce beau sujet?
J'avais pensé en réalité, quand vous avez évoqué une référence, en réalité j'avais pensé à un bouquin qui m'a assez bouleversé dernièrement, qui est le livre de Luis Sepúlveda qui s'appelle « Le vieux qui lisait des romans d'amour ».
C'est un magnifique auteur.
Et donc ça ne se rattache pas complètement au sujet, mais c'est juste la description... Déjà, de l'atmosphère amazonienne est magnifique. Et en plus, il arrive à rendre compte de la relation affective du héros avec un jaguar qui est absolument merveilleuse, qui m'a beaucoup touché. Et je crois que l'anthropologie devrait s'attacher de plus en plus à la description de la complexité des relations affectives.
Un très grand merci, Paul Kodja.
Merci à vous.
D'avoir accepté notre invitation. On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le Vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. La réalisation est signée Cédric Perronnet du pôle production, le Vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le média numérique de l'université, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'université. Vous pouvez aussi retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques.
On Air.